Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business présente.
Maintenant, la vraie question, c'est de mesurer l'ampleur du retournement.
On est dans une situation économique qui est plutôt favorable. On n'ose pas le dire, parce que si jamais on dit ça, on passe pour
un. On n'est pas d'accord sur rien avec ce que je viens d'entendre des uns et des autres.
Ça tombe bien. On veut du débat.
Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good evening business.
Il est 19h, c'est la deuxième heure de Good Evening Business, comme tous les soirs avec Audrey Tcherkov, bien sûr. Rebonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume et rebonsoir à tous.
La bonne nouvelle du jour, le chômage qui a continué de baisser au quatrième trimestre en France. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est comme ça, tant mieux. On va en parler avec Thomas Asportas dans un instant. Et puis on en parlera, on ira voir comment ça se passe sur le terrain avec le patron de Manpower France, Alain Roumillac, qui sera avec nous dans un quart d'heure sur BFM.
Et nous allons aussi parler ce soir de Microsoft, qui est dans une mauvaise passe et ça se ressent à Wall Street. Le groupe a dévoilé la nuit dernière des résultats qui confirment qu'il est en perte de vitesse, puisque le géant du logiciel n'avait pas affiché une croissance aussi lente depuis 6 ans.
Il y a eu des bugs en plus aujourd'hui du côté de Teams, du côté d'Outlook. Vous parlez d'une journée pour Microsoft. Et puis dans une demi-heure, 19h30, la grande interview, c'est le patron de Volkswagen France, cette fois Xavier Chardon, qui sera avec nous.
Oui, beaucoup de sujets à voir avec lui, évidemment. Oui. Alors forcément, les chiffres de vente 2022, bien sûr, qui sont tombés il y a quelques jours, et puis aussi les défis de l'inflation, des semi-conducteurs et forcément la concurrence chinoise de plus en plus prégnante.
Ça fait beaucoup de défis. Voilà le programme non exhaustif, bien sûr. On est ensemble jusqu'à 20h.
C'est parti.
Good evening business, le journal.
Donc oui, c'est la bonne nouvelle qui nous est parvenue ce midi. À la fin de l'année 2022, sur le quatrième trimestre, eh bien oui, bonne surprise, le chômage continuait encore de baisser en France. Thomas Asportas.
Le chômage, effectivement, a encore baissé au quatrième trimestre de l'année dernière et il est aujourd'hui à son plus bas niveau depuis la fin 2011. Le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi et sans aucune activité professionnelle, ce qu'on appelle la catégorie A, a reculé de 112 000 au dernier trimestre 2022. Leur nombre a baissé de 3,8 par rapport au trimestre précédent et de 9,4% en un an. On avait très précisément 3 127 000 personnes en catégorie 1 fin 2021. On est passé à 2 834 000 fin 2021. 2022, ça fait 293 000 chômeurs sans aucune activité en moins d'un an. C'est très significatif. Et si on inclut les autres demandeurs d'emploi, ceux qui ont une activité réduite, ce qu'on appelle les catégories B et C, eh ben ça baisse encore. Mmh. Leur nombre a reculé, donc A plus B plus C, de 280 000 en un an, c'est-à-dire une baisse de plus de 5%.
Est-ce que ça baisse dans toutes les catégories de population?
Oui, c'est l'autre bonne nouvelle. La baisse est généralisée. Chez les jeunes, toujours en catégorie A, les moins de 25 ans, moins 9,8%. Chez les seniors, plus de 50 ans, moins 8,9%. Autre bonne nouvelle, le nombre de chômeurs de longue durée, c'est-à-dire ceux qui sont au chômage depuis un an ou plus, baisse de 13,5% en un an. Il y en a 360 000 de moins. Et enfin, le chômage baisse dans toutes les régions, sans exception.
Bon, et comment on explique ces bonnes nouvelles fondamentalement, Thomas?
Eh ben, c'est parce que l'économie résiste beaucoup mieux que ce qu'on pouvait s'y attendre. Les entreprises ont des carnets de commandes bien remplis. Elles continuent à investir, elles continuent à embaucher. L'an dernier, on l'a appris en début de semaine, elles ont signé plus de 5 millions de CDI, c'est-à-dire 700 000 de plus qu'en 2021. L'an dernier, on a aussi dépassé en France pour la première fois le cap symbolique du million d'entreprises créées dans le pays. Tout ça montre bien qu'il y a de l'activité et qu'elle est adressée à notre force de travail. Et jusqu'à présent, eh bien, on voit que cette dynamique elle est plus forte que le ralentissement de la conjoncture internationale et des difficultés liées à l'inflation ou à l'énergie.
Voilà donc un marché du travail plus fort que le ralentissement macro. Ce qui est quand même un peu contre-intuitif, mais c'est une bonne surprise quand même, Audrey, à l'arrivée.
En effet, le marché de l'emploi continue clairement à défier toutes les prévisions de vagues de licenciements, mais aussi à l'échelle européenne, puisque le taux de chômage dans la zone euro est tombé en novembre à son taux qui est le plus bas niveau historique. Historique de 6,5%.
Donc l'environnement est meilleur et d'ailleurs, bonne nouvelle, l'Allemagne nous a dit aujourd'hui qu'elle devrait en priori échapper à la récession cette année. Ministère de l'économie qui tablait cet automne sur une baisse de 0,4% du PIB annonce désormais une petite hausse de 0,2% donc pour l'année 2023. C'est ce qui ressort en tout cas des prévisions faites aujourd'hui. 19h05, on va parler de Microsoft qui a donc présenté la nuit dernière ses résultats annuels. Qui a annoncé, comme beaucoup d'autres GAFA, des milliers de suppressions de postes. Et effectivement, les résultats qui sont tombés cette nuit le confirment. La croissance de l'activité ralentit inexorablement. Frédéric Simotel.
Oui, et quand ça ne va pas, ça ne va pas, puisqu'en plus Microsoft a été là, le fruit de pannes tout au long de la journée, des pannes autour de Teams, des pannes autour de LinkedIn, autour même de Outlook, de sa partie jeux vidéo, aussi les services vidéo Xbox. Donc il y a eu pas mal de pannes. Donc c'est vraiment une sale journée pour Microsoft. Alors effectivement, résultat alors, en hausse de 2%, on est à 52,7 milliards. Résultat net, lui, alors qui est de 16,4 milliards de dollars, hein, des entreprises pourraient dire mais c'est super. Non, c'est en chute de 12%. Donc c'est plutôt malvenu chez Microsoft, la plus faible, vous l'avez dit tout à l'heure, la plus faible croissance enregistrée depuis 6 ans. Tous les voyants sont au rouge, hein, que ce soit les licences Windows, que ce soit toute la partie matérielle, hein, les équipements Surface, la pub aussi qui a du mal à reprendre un peu de l'élan, même les jeux vidéo, ben oui, les gens se concentrent moins sur ce domaine avec l'inflation. Il faut dire que la croissance post-Covid avait amené tous les gens à s'équiper en écran, en PC, en logiciel, et puis là, bon, c'est un peu freiné. 10 000 licenciements, vous l'avez dit, arrêt de sa division Altspace, qui était pourtant un peu le métaverse de chez Microsoft. Ouais. Ils préfèrent se concentrer sur d'autres sujets. Voilà, un gros coup de froid, en tout cas, sur la tech, et on attend déjà les résultats de Meta, Facebook et Google la semaine prochaine.
Ça aussi, on attend. Il y a une question qu'on peut se poser, alors c'est valable pour Microsoft comme pour les autres, sur quel relais de croissance ils vont s'appuyer pour rebondir finalement dans les prochains mois?
Alors, il va falloir accélérer sur le cloud, mais vraiment donner un gros coup d'accélérateur, parce que jusqu'alors, alors le cloud, la division marche bien, la division Azure, mais la progression était de plus de 30%. Là, pour ce trimestre, elle est de 18%, donc quand même une baisse assez sévère, et pourtant ils ont augmenté de façon très importante leur tarif, mais selon Microsoft, il y a encore 50% des entreprises et des administrations américaines notamment qui doivent franchir le pas du cloud, donc ça fait un potentiel de marché. L'intelligence artificielle, on parle beaucoup de ChatGPT, de cette start-up OpenAI, Microsoft vient d'y investir 10 milliards de dollars. La cybersécurité, Microsoft est, on ne le sait pas, mais l'un des gros acteurs en cybersécurité. Et puis parier sur des secteurs en croissance au niveau de la tech, c'est la santé, c'est l'industrie 4.0, et puis évidemment le jeu vidéo. On attend toujours ce rachat de Microsoft de Activision Blizzard, 70 milliards dans la balance.
Pas gagné. Bon, hein.
Pour l'instant, c'est pas gagné parce que les régulateurs américains, européens sont un peu contre.
Voilà, Frédéric Simotel, un titre Microsoft qui souffre en ce moment à Wall Street. On verra ça avec Sabrina Cagliosi dans un instant depuis New York. Et puis alors ce soir, après la clôture à Wall Street, c'est Tesla à son tour qui va publier ses résultats annuels. Tesla qui a passé l'année 2022 assez chahutée. Le titre a perdu 65% en bourse, mais on sent Elon Musk reparti au combat en ce début d'année 2023. Justine Vassogne.
I slept on the floor. J'ai dormi sur le sol pour que l'équipe qui traversait des moments difficiles puisse me voir, pour que les employés sachent que je ne vis pas dans une tour d'ivoire.
Il y a quelques mois, Elon Musk racontait dans un entretien TED ses nuits passées dans l'une de ses usines. Un patron hyper investi qui manque aujourd'hui à Tesla et à ses actionnaires. « Rendez-nous notre CEO !» s'exclamait par exemple l'un d'entre eux sur Twitter il y a quelques semaines. Le temps passé par Elon Musk à s'occuper du réseau social, les polémiques qui en ont suivi ont terni l'image de Tesla et contribué à sa plongée en bourse. Elon Musk aurait-il entendu les critiques ? Il semble en tout cas décidé à reprendre les choses en main. Sur le front de la gouvernance, d'abord, il s'est choisi un bras droit, Tom Zhu, qui dirigeait auparavant les activités de la marque en Chine et qui va désormais superviser les usines et les ventes de Tesla en Europe et en Amérique du Nord. Le groupe part aussi à l'offensive sur les prix. Le constructeur a annoncé des baisses de tarifs substantielles sur ses modèles 3 et modèle Y en Chine, aux États-Unis et en Europe. Une guerre des prix destinée à faire taire la concurrence qui s'intensifie et à montrer sans doute qu'il y a bien un pilote dans la voiture Tesla.
Justine Vassogne, on a appris que les locaux de BNP Paribas à Francfort avaient été perquisitionnés ces dernières heures par la police dans le cadre d'investigations liées à une affaire de fraude fiscale portant sur plusieurs milliards d'euros, le scandale nommé CumEx. D'autres banques ont fait l'objet des mêmes perquisitions par le passé. BNP Paribas assure en tout cas continuer de coopérer, je cite, pleinement avec le parquet. Et puis c'est une affaire qui se termine bien, enfin qui se termine par une amende par le groupe Booking qui vient de mettre fin à un litige avec le fisc, litige qui se solde par une amende quand même de 153 millions d'euros, s'il vous plaît. Hélène Cornet.
Il a fallu des années de négociations féroces pour arriver à cet accord à l'amiable. Au cœur du conflit, l'implantation réelle ou supposée des locaux de Booking sur le territoire français. La plateforme faisait valoir que les demandes de réservation effectuées en France étaient traitées depuis son siège installé aux Pays-Bas. Le fisc estimait à l'inverse que Booking.com dispose depuis 2001 de bureaux permanents en France avec 650 salariés. Il lui réclamait 356 millions d'euros pour redressement fiscal avec intérêts et pénalités. Ce sera finalement seulement 153 millions pour la période 2006-2018, car Booking est également dans les radars du fisc pour les exercices suivants. La plateforme néerlandaise s'est toujours défendue de faire de l'optimisation fiscale, un débat qui deviendra bientôt obsolète avec l'entrée en vigueur de la taxe internationale des géants du numérique, appelée également taxe GAFA. Elle prévoit un impôt minimal sur les bénéfices réalisés dans chaque pays, quelle que soit leur présence physique. Depuis 2019, la France est la seule à avoir mis en place sa propre taxe, calculée, elle, sur le chiffre d'affaires.
Voilà, Hélène Cornet est donc Booking qui règle ses affaires avec le fisc, moyennant une belle amende. Cela dit, Hélène Cornet avec nous sur BFM Business. 19h11. On retourne sur les marchés tout de suite. Je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris ce soir. Petite séance de baisse pour l'indice parisien qui perd 0,09%. 7043 points ce soir à la clôture pour l'indice parisien. Bonsoir Sabrina. Sabrina Colguzzi depuis New York pour BFM Bonsoir. Business. Il y a un petit peu de rouge chez vous aussi, Sabrina, ce soir, on dirait.
Ah oui, on fait un petit peu la tête là sur les marchés américains. Vous en avez parlé, les résultats bien sûr de Microsoft qui sont sur le devant de la scène et qui ont jeté un froid avec des prévisions qui sont assez moroses. Microsoft qui a vu ses résultats reculer de 12% avec un gain de seulement 2% pour le chiffre d'affaires. On n'avait pas vu ça depuis 2016. Et essoufflement également du côté des activités cloud et un marché qui sanctionne donc le titre Microsoft est en repli depuis ce matin. L'ouverture, Microsoft qui recule de 0,9%. En attendant donc ce soir les trimestriels également de Tesla qui lui est en hausse de 0,08% avec d'autres publications qui ont été faites du côté des télécoms. AT&T qui publie des chiffres mitigés, des prévisions un petit peu justes, mais un nombre d'abonnés mobiles supérieur aux attentes. Du coup, le titre AT&T est en hausse de 6%. Et puis Boeing, des pertes sur le trimestre écoulé. Encore pas mal de difficultés du côté de la main-d'œuvre, de l'approvisionnement également, malgré une hausse de la demande pour ces appareils. Le titre Boeing est en baisse de 0,5% dans un marché qui recule, donc avec un Dow Jones qui s'est 0,4%, un S&P 500 0,5%. Quant au Nasdaq, c'est une baisse de 0,9%. Sachez qu'on est loin des plus bas niveaux de la séance ce matin avec un indice qui perdait pratiquement 2%. On ne perd plus que 0,8%, donc à 11 237.
On a refait une partie de retard. Merci beaucoup Sabrina. On vous retrouve évidemment toute la soirée sur BFM Business pour suivre ensemble cette fin de séance du côté de Wall Street. 19h13, le chômage qui continue de baisser en France à la fin de l'année. On vous l'a raconté. On va aller voir comment ça se passe du côté des agences de recrutement, du côté des agences d'intérim. C'est le patron de Manpower Group France, Alain Roumiac, qui est avec nous dans un instant sur BFM Business. À tout de suite.
Good evening business, ils font l'écho.
19h16, notre deuxième invité, c'est Alain Roumiac, le président de Manpower Group France. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir pour évoquer ces chiffres du chômage du quatrième trimestre qui viennent de tomber ce matin. Alors, Pôle emploi nous dit que le nombre de chômeurs inscrits en catégorie A a baissé de 114 000 au dernier trimestre, c'est-à-dire une baisse de 3,6%, c'est quand même beaucoup. Est-ce que c'est ce que vous ressentez, cette tendance aussi, dans vos agences?
Alors, c'est ce que nous avons ressenti au quatrième trimestre et c'est une tendance qui continue sur le début de l'année. On avait d'ailleurs publié dans les premiers jours de janvier notre baromètre trimestriel dans lequel les intentions d'embauche des entreprises étaient encore extrêmement fortes. D'ailleurs, de façon un peu atypique dans un moment un peu de crise, est plus forte dans les grandes entreprises que dans les petites entreprises, alors qu'en général, elles sont plus résilientes, elles sont moins sujettes au cycle. Donc peut-être aussi l'inquiétude liée à l'inflation, le coût de l'énergie.
C'est un petit peu contre-intuitif, qui aurait pu laisser penser que les chiffres à l'extérieur, que les entreprises ne seraient pas en demande toujours plus finalement à la remise.
Alors, moi je pense que d'abord, la plupart des entreprises sont assez confiantes sur l'avenir.
Ouais.
Beaucoup aussi sont dans des transformations qui sont assez majeures et elles se disent c'est aujourd'hui que les positions pour demain doivent être prises. Ouais. Donc, si je fais un arbitrage qui peut me mettre en difficulté pour demain, c'est peut-être pas le bon moment. J'ai peut-être une possibilité d'augmenter mes prix, de passer. Et donc, il faut pas que je taille dans ce qu'est la force vive et surtout à un moment... D'ailleurs, ce que traduit cet appétit de recrutement, c'est qu'il y a une tension sur le marché de l'emploi. Donc, si je ne garde pas ou si je n'attire pas les talents dont j'ai besoin demain, je risque de me mettre dans une situation difficile.
C'est ça. Mais cette tendance, elle s'explique aussi sûrement par le fait que les entreprises, en tout cas en France, elles ont été beaucoup aidées par le gouvernement.
Alors, elles ont beaucoup été aidées. Maintenant, pense que tout le monde se dit qu'est-ce qui va se passer demain.
Voilà, what's next.
Donc normalement, dans ces périodes-là, ce qu'on avait vécu dans d'autres crises, il y a un certain attentisme. Là, quelque part, un peu tous les indicateurs sont un peu cassés, ouais, parce que ça ne devrait pas être normal qu'avec zéro de croissance, on crée autant d'emplois. Bon, je vous dis, moi, je crois que c'est plutôt cette projection sur l'avenir, ouais, le fait de ne pas hypothéquer le futur, qui est importante.
Et est-ce que du coup, il y a une pression des entreprises à recruter, quitte à ne pas forcément trouver le bon candidat, parce que c'est dur de trouver les compétences dont on a besoin, en se disant, bon, bah, c'est pas grave, je recrute celui-là, un tel ou un tel, qui n'est pas forcément au niveau de mes attentes, mais c'est pas grave, je le formerai sur le tas, finalement. Est-ce que c'est, ouais, est-ce que beaucoup... Oui, bien sûr.
Donc, mais je crois que d'abord, ça pousse à faire plus d'inclusion. Oui. Ce qui est d'ailleurs en ligne avec les stratégies, donc d'une plus grande inclusion, d'aller plus vers un engagement écologique de la part des sociétés, mais surtout, ouais, d'être plus inclusif. Donc, elles vont chercher des gens qui sont plus éloignés de l'emploi, elles acceptent plus facilement de prendre des gens qui n'ont pas les compétences et de les former. D'insérer plus, je dis, de gens éloignés de l'emploi, de gens qui vont être personnes qui vont être en situation de handicap. Donc tout ça, je dirais, donc d'abord parce qu'il y a cette pénurie de compétences, plus le fait qu'elles sont engagées à être socialement plus responsables. Donc oui, on va vers plus d'inclusion et oui, les entreprises prennent des gens qui sont moins prêts à l'emploi.
Et on va aussi vers des augmentations de salaires, puisque les tendances montrent que les augmentations, elles atteignent des records, en tout cas pour cette année. Les négociations annuelles sont en cours, mais vous confirmez cette tendance aussi ?
Ce qui se passe, c'est que cette tendance, elle est aussi tirée, bien évidemment, parce qu'on veut accompagner nos collaborateurs face à leur problème d'inflation. Et puis surtout, c'est qu'il y a dans beaucoup de secteurs, beaucoup d'entreprises, on a vu une augmentation du taux de turnover.
Ouais.
Donc, quand c'est compliqué de recruter, vous avez d'abord tendance à garder les gens qui sont en place. Et deuxième sujet, c'est que quand vous avez un taux de turnover important, ça fait baisser votre productivité, parce que les gens, il leur faut un certain temps pour pouvoir être efficaces. Ce qui peut d'ailleurs expliquer que malgré une faible croissance, on crée des emplois, parce qu'avec cette augmentation du turnover, on a besoin de plus de monde pour réaliser ce que l'on a à faire.
On est vraiment dans un rapport de force, alors qu'il n'est pas en train de s'inverser, mais enfin, je veux dire, les candidats qui posent leurs conditions, jusqu'à il y a un an ou deux, on parlait de ça concernant le marché des cadres exclusivement. On disait les cadres ont le pouvoir. Là, on a l'impression que ça s'étend, ça dépasse largement le marché des cadres aujourd'hui.
Ça dépasse, vous avez raison. Et ça, c'est une tendance quelque part post-Covid, ou en tout cas est liée à cette problématique de pénurie de compétences. Ça dépasse un peu tous les secteurs. Une quête de sens importante.
Ouais.
Voilà, je veux travailler dans une entreprise pour laquelle je suis fier et je veux travailler dans une entreprise qui me respecte. Ouais. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, je veux un meilleur équilibre vie professionnelle, vie privée. Pour ceux qui peuvent télétravailler, c'est du télétravail. Et puis, nous venons de sortir une étude dans le cas de Davos. On a posé la question, si vous deviez faire un arbitrage, par exemple, en réduisant votre temps de travail à 4 jours par semaine et en baissant votre salaire donc de 5%, donc faire un effort sur ce sujet-là, et vous avez plus d'un salarié sur 3 qui vous dit, bah oui, banco, moi je suis prêt, pour passer à la semaine de 4 jours, de réduire mon salaire de 5%.
Quel que soit le statut du salarié, parce qu'on se dit quand même je veux, mais à certains moments, quand il faut se nourrir, quand il faut avoir du travail,
alors... raison. Entre l'intention et la réalité, il y a toujours une différence. Ceci étant, ça traduit quand même une volonté de la part des candidats, de la population, d'avoir cet équilibre vie professionnelle et vie privée.
Oui, bien sûr.
Et peut-être que d'ailleurs, ce qui est en train de se passer, y compris sur le sujet des retraites, c'est aussi un de ces sujets-là. C'est-à-dire qu'il y a une tendance extrêmement forte, et je crois qu'il y a, dans notre baromètre aussi, il y a 65% des personnes qui télétravaillent qui disent « je suis prêt à quitter l'entreprise si on me demande de revenir à temps complet dans l'entreprise ». Donc, il se passe des choses sur les attentes des candidats, et c'est bien l'enjeu d'ailleurs des entreprises, c'est l'enjeu aussi des recruteurs comme nous.
Ouais.
Pour ça qu'on fait ces études, pour pouvoir conseiller nos clients, de pouvoir s'adapter à ce nouveau contexte pour garder les talents qu'on a à l'intérieur de l'entreprise, bien sûr en alignant bien sûr les clauses salariales, et puis être capable d'attirer donc d'autres talents et en répondant à l'ensemble des attentes. Et les attentes sont variées. Et de plus en plus, ce que veulent les gens, c'est des approches individualisées, ce qui pose aussi problème à l'intérieur de l'entreprise. Certains voudront avoir, je dirais, moins de temps de travail, mais ils sont prêts à faire un arbitrage sur le salaire. D'autres voudront en premier le salaire, et ça, c'est
tout ce nouveau, des entreprises. Ce nouveau contexte est aussi lié, évidemment, à la quête de sens, dont
absolument,
on va en parler, mais qui est aussi très prégnant.
Et le sens, encore deux choses. Je veux être fier de l'entreprise dans laquelle je travaille. Et donc, son engagement sur ce sujet. Et je veux qu'on me respecte.
Oui, et quand vous parlez de passer éventuellement à la semaine de 4 jours, on parle d'une semaine à 35 heures ?
Alors après, chacun a sa propre idée sur ce sujet, mais je discutais avec une entreprise qui a décidé d'aller vers ce sujet-là. Oui. Elle m'a dit qu'il y avait un certain nombre de difficultés de recrutement. Elle m'a dit, mais j'ai eu un afflux donc de candidats, mais absolument hallucinant. Donc, ce qui prouve bien, là encore, après, les pourcentages que l'on donne, ce sont des tendances, mais ça prouve bien qu'il y a une tendance importante. Après, chaque entreprise s'organise. Ouais. Après, il y a des réalités économiques.
Ouais.
Je pense que vous ne pouvez pas réduire le temps de travail à toutes choses égales par ailleurs. Donc après, chaque entreprise, en fonction de ce qui est sa problématique, sa capacité à améliorer la productivité, trouve son équilibre avec les gens. Puis tout ça, ça va s'équilibrer avec le temps.
Ça va s'équilibrer, ça sera de moins en moins épisodique. On a deux grosses minutes, mais je voulais qu'on parle, parce qu'on faisait remarquer pendant la pause qu'il restait encore un peu plus de 5 millions, 800 000 personnes au chômage aujourd'hui. Je voudrais qu'on dise un mot, parce que ça, on en parle souvent, et c'est intéressant de savoir ce que l'intelligence artificielle vous aide à faire aujourd'hui pour mieux faire se rencontrer les demandeurs d'emploi et les prétendants. Ça, c'est un chantier absolument incroyable, l'intelligence artificielle chez vous.
Bien évidemment, c'est faire le matching, et essayer aussi d'ailleurs de comprendre quelles sont les capacités des gens.
Ouais.
Pour dire, bon, si je leur applique tel type de formation, si je leur fais passer tel type de formation, voilà le type de job qu'ils vont être capables de faire.
Et qu'est-ce que vous amène l'IA de ce point de vue-là, alors?
Elle nous aide justement à amener de la productivité à nos équipes, justement pour pouvoir aller plus vite dans ce matching, à un moment où, encore une fois, il peut y avoir une différence importante entre ce qu'est la capacité de la personne et les besoins de l'entreprise. Donc ça nous permet donc d'aller chercher, j'irais presque des couples un peu improbables, en disant, mais cette personne, une fois qu'on l'a évaluée, elle est capable de faire ça.
Ouais.
Et si je reviens sur les 5,8 millions de personnes, ce qu'il faut maintenant, c'est les accompagner. Il y a beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, sont demandeurs d'emploi. Si vous les accompagnez pas, si vous les aidez pas à lever un certain nombre de freins, typiquement, actuellement, on travaille avec Pôle emploi, qui nous a confié des demandeurs d'emploi qui disent, je peux pas travailler parce que j'ai des problèmes de santé. Si ces gens-là, vous les accompagnez pas, vous les aidez pas à lever leurs problèmes de santé, ou dire, bon, t'étais dans tel secteur, tu peux plus travailler, maintenant, il faut que tu ailles sur un autre secteur, on va t'accompagner. Donc, il y a des solutions. Je crois que c'est aussi le projet de France Travail, un accompagnement plus spécifique de tous ces gens-là. Et c'est comme ça qu'on continuera à réduire le taux de chômage.
Alors, pour la dernière minute, j'aurais aimé que vous nous expliquiez ce phénomène un peu étrange. D'un côté, on a le taux de conversion de l'intérim vers des CDI qui est énorme. Et de l'autre côté, on a de plus en plus de salariés qui refusent justement de s'attacher à une entreprise parce qu'ils veulent plus de flexibilité.
Vous savez, le monde a toujours sa complexité. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une tendance beaucoup plus forte, et je crois que vous l'avez dit dans votre journal, à recruter en CDI de la part des entreprises.
Oui.
Donc, tous les gens qui peuvent embaucher en CDI, ils les embauchent en CDI. Puis vous avez raison, vous avez une autre partie de la population, mais qui est quand même minoritaire. Le salariat reste l'élément majeur dans la vie sociale française. Et puis un certain nombre d'autres personnes et c'est pour ça qu'on voit beaucoup se développer l'entrepreneuriat, l'auto-entrepreneuriat. Mmh. On a aussi de plus en plus de gens, nous, en intérim, qui nous disent, mais non, mais moi, je veux rester intérimaire parce que je veux pouvoir choisir la mission et l'entreprise avec laquelle je vais travailler. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises font tout ce qu'elles peuvent pour augmenter le nombre d'emplois en CDI, donc s'adresser à la population, au pourcentage de la population qui a plutôt envie de sécurité.
Et trouver les compétences. Vous êtes un peu optimiste pour les prochains mois. On disait tout à l'heure, aujourd'hui, les chiffres de l'emploi ne traduisent pas encore le ralentissement. Ça va venir. Comment est-ce que vous voyez les prochains mois?
J'étais inquiet au deuxième trimestre pour le troisième. J'étais inquiet pour au troisième pour le quatrième. J'étais inquiet au quatrième pour le premier. Donc, voilà. Donc, on a tous eu un niveau d'inquiétude en se disant, mais qu'est-ce qui va se passer?
Écoutez,
moi, j'ai un peu ce sentiment qu'on est sur des tendances relativement stables et que, encore une fois, les entreprises sont confiantes dans l'avenir. Elles ont besoin de se transformer. Elles ont besoin de nouvelles compétences. Donc, moi, je crois qu'on va rester sur une tendance à peu près équivalente, peut-être un tout petit peu moins, mais on va être dans une tendance positive.
Et on est quand même tous ébahis par la capacité de résilience des entreprises françaises.
Absolument, elle le montre jour après jour. Merci beaucoup Alain Roumiac.
Merci
de passer nous voir ce soir, le président de Manpower Group France avec nous. dans Good Evening Business. Merci beaucoup d'être passé nous voir. 19h28, on est en retard.
Et oui, mais si vous avez raté une partie de cet échange, c'est à retrouver en replay. Ça s'affiche sur vos écrans ou sur bfmbusiness.fr.
Vous appréciez sur la page des replays, effectivement, de notre émission. 19h28, on marque une petite pause. Faiza Younzine nous donne les grands titres. Et puis, dans trois petites minutes, un petit peu plus, c'est Xavier Chardon, le président du directeur de Volkswagen Group France, qui est avec nous pour parler.
Beaucoup de sujets à voir avec lui.
Bah, tous les débits et défis en forme de l'industrie automobile aujourd'hui. Voilà, jusqu'à 20h.
À tout de suite.
Good Evening Business, la grande interview.
Et c'est donc Xavier Chardon, le président directeur de Volkswagen Group France, qui est avec nous. Bonsoir, monsieur Chardon.
Bonsoir.
Bonsoir, merci beaucoup. Vous êtes venu ce matin à votre conférence de presse annuelle. On a parlé des chiffres France de Volkswagen. Alors, est-ce que vous me permettez quand même qu'on fasse un commentaire? Parce que les chiffres mondes sont sortis il y a quelques jours.
Les chiffres mondes sont sortis il y a quelques jours, effectivement.
Exactement. Je le donne ce chiffre. 8,3 millions de véhicules vendus l'an dernier dans le monde par le groupe Volkswagen. Troisième année de repli consécutif. C'est le niveau de vente le plus bas depuis 2002. Évidemment, vous n'êtes pas les seuls à subir tout ce que subit l'industrie automobile. Comment est-ce que vous le regardez, ce chiffre, vous,
fondamentalement? Donc, effectivement, on a terminé à 8 320 000 véhicules, baisse de 7% par rapport à l'année précédente. Donc, on n'a pas retrouvé les niveaux pré-Covid. Quand on regarde un peu plus en détail ce qui se passe par marque, on a dans le groupe des marques qui performent très bien, notamment nos marques de luxe, que ce soit Porsche, Bentley, Lamborghini, qui ne connaissent pas la crise, donc qui sont en croissance positive. Nos marques camions et autobus sont aussi en croissance, donc il y a des signaux positifs.
Ouais.
On a une situation qui est un peu plus négative sur nos marques comme Seat et Skoda, qui souffrent de l'allocation de nos semi-conducteurs qui vont aux marques qui sont les plus rentables.
Est-ce qu'on n'a pas bénéficié, comme certains autres constructeurs, les véhicules qui dégagent le plus de marge, effectivement?
Tout à fait. Donc on a une allocation. Voilà. Donc Audi a, par exemple, une baisse qui est la moitié de celle du groupe. Donc on est à moins 3,8%. Donc une marque Audi qui a pris des parts de marché dans certains marchés, qui continue à bien se maintenir. Donc on voit qu'on a une demande pour le premium, le luxe qui se maintient. Mais on a aussi une demande sur les segments de volume comme pour la marque Volkswagen qui sont là. Mais on n'est pas encore capable de répondre à la demande aussi rapidement que les clients le souhaitent.
Oui, ça on va en parler.
On a toujours
évidemment
des contraintes de semi-conducteurs, même si la situation s'améliore.
Justement, sur les semi-conducteurs, qu'est-ce que vous dites? Parce que ça reste effectivement, avec les difficultés sur la chaîne d'approvisionnement, le grand sujet aujourd'hui. Il y a l'énergie, on va en dire un mot. Mais comment est-ce que vous voyez les choses évoluer sur les semi-conducteurs?
On l'a vu s'améliorer de manière positive en 2022. Oui. Si je regarde, là je reviens sur les chiffres de la France, on a eu un premier semestre qui a été plus compliqué en termes de part de marché. Oui. Sur l'année, on a fait 12,5.
Oui.
Premier semestre à 11,5. Dernier trimestre, où là on a vu les capacités qui s'accélèrent, on était à 13,5. Donc on a gagné un point de part de marché sur le dernier trimestre. Oui. Pourquoi? Parce que la situation s'améliore en termes de production. Pas sur tous les modèles, mais on a une dérivée qui est positive, donc qui nous laisse espérer davantage sur cette année qui démarre.
Vous dites on démarre avec un plan produit important. Ça veut dire quoi, un plan produit important chez Volkswagen?
On a un plan produit important, notamment sur l'électrification. Vous savez que ça fait partie de nos enjeux forts. Quand je me projette 2030, ça arrive finalement assez vite. En 2030, en Europe et en France, on veut faire 70% de nos véhicules en électrique. C'est pour ça qu'on accélère. Donc on a fait 30 000 véhicules en France en 2022.
Ouais.
C'est positif. Le groupe accélère aussi au niveau monde. Pour la première fois, on a dépassé la barre des 500 000 voitures, 572 000 pour être précis, plus 26%. Donc là, on voit qu'on est dans une bonne dynamique et on a des plans produits qui s'accélèrent.
Oui.
Je le répète, on investit fortement 50 véhicules purement électriques qui arriveront d'ici 2030.
Oui. Sur les semi-conducteurs, donc j'y reviens, qu'est-ce que vous dites pour cette année? Est-ce que vous voyez point d'une amélioration encore
pour
vous le voyez déjà sur le deuxième semestre?
On le voit sur certains modèles. Ça va par contre rester assez compliqué. Donc dans chaque gamme, on a des situations qui s'apprécient au jour le jour.
Au
on
jour
a
le
des
jour.
Modèles où on revient à des situations de délais qui sont tout à fait normales. Donc ça, c'est le côté positif.
Sur les délais de livraison, ça se normalise encore aujourd'hui?
Ça dépend des modèles.
Dans chaque
marque, on va trouver des modèles aujourd'hui où je reviens à des situations qui sont de l'ordre de 2 mois de délais qui sont tout à fait normales.
On s'était vu il y a quelques mois, vous ne disiez pas la même chose.
Depuis, en 3-4 mois, on a retrouvé de l'optimisme sur certains modèles. Quand je regarde, j'ai même une situation de stock en janvier qui est largement meilleure cette année qu'elle était il y a 12 mois.
Ouais.
On n'est pas en train de crouler sous les stocks, mais on revient petit à petit dans des situations qui se normalisent. Par contre, j'ai toujours des délais qui sont très élevés, notamment sur certains modèles plug-in hybrides qui sont très demandés. Et puis l'électrification, on voit qu'il y a une demande client qui augmente mois après mois. Donc là aussi, nos usines sont en train de monter en cadence. Ouais. Mais je dirais pas aussi aussi vite que la demande.
Ouais. Les prix de l'énergie, bon, évidemment, ça s'est un petit peu tassé. Comment est-ce que vous gérez aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des pics ces derniers mois d'inquiétude?
On a eu des pics. Alors après, il faut aussi prendre un peu de recul par rapport à ça, parce que c'est vrai que l'électrique augmente. Donc les clients nous disent, mais tout le bénéfice qu'on est censé avoir quand on recharge notre véhicule par rapport à un thermique, oui, qu'en est-il? Je rappelle qu'aujourd'hui, avec la chance que nous avons en France avec le bouclier tarifaire pour les clients, oui, particuliers, oui, oui, ben, finalement, quand on fait le mix de recharge entre le domicile, le bureau et l'autoroute, on reste sur des rapports de 2 fois à 3 fois plus attractifs que le thermique.
Ouais.
Donc même si on a une inflation sur l'électrique, elle reste contenue et toujours très très attractive.
J'ai vu que vous vouliez monter en puissance en France sur la vente de véhicules de seconde main, de l'occasion.
Tout à fait. Donc le véhicule d'occasion, c'est important. Si je regarde en 2022, on a fait une très très bonne année. Pour la première fois, on a vendu autant de véhicules d'occasion que de véhicules neufs dans le réseau du groupe. Donc ça, c'est important. Et le véhicule d'occasion, il est important parce qu'il permet aussi de répondre à des clients qui ont un pouvoir d'achat qui peut être pas suffisant pour aller sur du neuf. Donc c'est important qu'on s'engage là-dessus. Donc on a une nouvelle offre de label qui est renforcée dans chaque marque. Et la nouveauté de cette année, c'est qu'on va garantir nos véhicules labellisés 5 ans.
Ouais.
Là aussi, c'est un engagement qu'on prend qui est fort et c'est redonner du pouvoir d'achat aux clients.
Justement, puisqu'on parle de pouvoir d'achat, est-ce que vous sentez que dans ce contexte inflationniste, plus que jamais, l'achat d'un véhicule neuf, c'est quelque chose qu'on arbitre beaucoup plus, voire auquel
on le voit
beaucoup plus dans le contexte actuel.
Dans un contexte d'inflation, c'est vrai qu'on a des prix qui ont augmenté, on a des coûts de matières premières, d'énergie qui font qu'on a augmenté le prix de nos véhicules et qu'on va continuer à l'augmenter. La bonne nouvelle, je parlais du véhicule d'occasion, on a des valeurs de revente qui sont soutenues. Ça permet de limiter les hausses et quand je prends un peu de recul et que je prends des véhicules de nos gammes entre janvier 2022 et janvier 2023, j'ai des véhicules chez Skoda, chez Audi, chez Volkswagen qui n'ont eu aucune inflation en termes de mensualité.
Ouais, c'est ça.
Nos bonnes valeurs résiduelles nous permettent de contenir une partie de cette inflation.
Est-ce que vous êtes convaincu comme ça? Enfin, c'est un discours qu'on tenait à une époque, l'explosion, le vrai décollage du marché du véhicule électrique va passer par le décollage du marché du véhicule d'occasion électrique en l'occurrence.
Les deux sont intimement liés. Oui. Complètement d'accord. Donc nous, on est même en train d'anticiper justement nos valeurs de revente pour partir sur un deuxième cycle de 3 ans à 6 ans, voire même de 6 ans à 9 ans. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des batteries qui sont garanties 8 ans. Donc ça nous permet aussi de nous engager dans cette logique. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on a des véhicules avec nos plateformes qui maintenant permettent la mise à jour à distance. Donc ça permet d'avoir des véhicules d'occasion qui vont aussi évoluer. On n'est plus dans de l'obsolescence programmée où votre véhicule neuf, mois après mois, il perdait de sa valeur.
Ouais.
Tu vas le faire, bien évidemment, mais tous ces éléments-là, quand je regarde par exemple la ID3 qui est en photo derrière vous, c'est une voiture, la dernière mise à jour, finalement, avec le clignotant, vous allez pouvoir changer de fil en conduite autonome. Ça n'existait pas pour les clients qui l'avaient au départ, donc ça aussi, c'est un plus qu'on va offrir à nos clients.
Alors, le véhicule électrique, on va revenir sur les chiffres monde quelques instants de Volkswagen. Les ventes de véhicules électriques, je vois ça, ont représenté quasiment 7% des ventes chez Volkswagen l'an dernier.
7% en livraison
au
et
plan
plus
mondial.
En commande.
Ouais. C'est 9% chez BMW, on fait x2 sur un an, c'est quasiment 6% chez Mercedes en x2. Donc ça accélère, mais il y a quand même cette idée que les constructeurs allemands restent en retard par rapport aux Américains et aux Chinois aujourd'hui. Voilà. L'impression que malgré tout, les constructeurs allemands ne suivent pas le rythme d'un Tesla ou des plus gros acteurs chinois aujourd'hui.
Tesla, c'est un nouvel entrant qui est 100% électrique, donc par définition, ils sont 100% électriques.
Mais les Chinois, on va aller un peu sur les Chinois.
Quand on regarde les marques chinoises, on a effectivement des marques qui arrivent avec des produits qui sont aussi électrifiés, des bons produits. Ouais. Moi, je l'avais dit la dernière fois, j'ai vécu 4 années en Chine avant de reprendre le marché français. Donc, on a vu, il y a un marché qui, cette année, pratiquement un quart du marché chinois était électrique. Donc, il y a une véritable appétence pour ce sujet. Et ça permet aussi d'avoir de la compétence directe sur ces véhicules. Mais nous, on regarde, les constructeurs chinois vont arriver en Europe, c'est évident. Mais on a eu les Japonais qui sont montés en puissance. On a les Coréens. Maintenant, on va avoir des Chinois. Nous, on fait face à des concurrents qui sont aguerris. Mais on a un plan de marche qui est important. Je rappelle, on va investir 80 milliards dans les 4 prochaines années, 50 milliards sur les véhicules électriques, 30 milliards sur le software. Pourquoi? Pour permettre là aussi de continuer à être offensif, à répondre aux attentes des clients et à garder notre leadership européen. Et je rappelle, on est aussi le leader du marché chinois.
Oui.
Donc là aussi, on a des plans.
C'est 40%
forts.
Des volumes de Volkswagen, je crois, la Chine.
C'est pratiquement 40% des volumes effectivement.
Je vous pose la question parce que certains disent effectivement, les constructeurs allemands et notamment Volkswagen font partie des constructeurs qui risquent d'être les plus gros perdants de la montée en puissance de la concurrence chinoise dans les prochaines années.
La concurrence, elle nous amène à nous remettre en question. C'est pour ça qu'on a lancé, non pas cette année, mais il y a déjà plusieurs années, un plan qui s'appelle New Auto, d'électrification à marche forcée. Donc, les Chinois investissent, nous on investit, on a des plans clairs sur notre stratégie d'électrification, de conduite autonome, de connectivité des véhicules. Il faut aussi qu'on fasse des efforts pour rendre nos véhicules électriques accessibles. C'est ce qu'on va faire dès 2025 en Europe avec des véhicules électriques à moins de 25 000 euros hors incitation de l'État. Donc on est en marche forcée, on a un plan de marche. Donc effectivement, il faut qu'on regarde nos concurrents, il faut qu'on regarde les attentes de nos clients, ce que l'État peut aussi nous apporter en termes de support sur la recharge. Mais on est confiant.
Ça fait 40 ans que vous êtes en Chine. Hein. La première production, c'était la Santana.
La Santana, tout
à fait. Ça nous ramène 40 ans.
40 ans et leadership qui s'est maintenu cette année.
Mais la Chine, il y a quand même l'idée qu'elle grappille de plus en plus de parts de marché à Volkswagen, en Chine notamment. Voilà,
on a des nouveaux concurrents comme BYD, effectivement.
BYD,
qui, mois après mois, ont pris des parts de marché. On a une belle offensive sur nos véhicules électriques. Quand on regarde la Chine 2023 par rapport à la Chine 2022 par rapport à 2021, on est en progression sensible aussi sur nos ventes de véhicules électriques. Donc on a un plan qui va continuer à s'accélérer, et on a aussi une stratégie qui va nous permettre d'être, je dirais, davantage chinois en Chine, parce que les clients chinois, je rappelle, ils ont en moyenne 20 ans de clients d'achat, de clients qui achètent un véhicule neuf en Chine, 34 ans. Europe, 55 ans. Donc les attentes ne sont pas les mêmes. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit davantage présent.
Ça, c'est intéressant. Développez-moi ça un petit peu. Quand vous dites les attentes ne sont pas les mêmes, ça veut dire quoi en
Chine? Vous avez des clients qui sont, pour la plupart, qui achètent pour la première fois.
Ouais.
Alors qu'en Europe, on est typiquement
en renouvellement.
Des clients qui sont beaucoup plus jeunes, 20 ans d'écart, donc ils sont beaucoup plus sensibles à la digitalisation, qui vont demander à leur véhicule de faire exactement la même chose qu'ils ont avec leur smartphone, et ils sont beaucoup plus connectés que chez
nous. Bien sûr.
Donc c'est pour ça qu'on a des plans assez importants, on a des plans d'électrification, de conduite autonome. On vient de lancer un partenariat avec Horizon Robotics en Chine, pour là aussi permettre de s'adapter et d'être beaucoup plus rapide dans ce marché qui évolue à une vitesse incroyable.
Alors il y a le défi évidemment de l'électrique, il y a bien des défis, et puis il y a aussi tout le défi de l'à côté, les services et la mobilité. Alors, il y a le bouclage du rachat d'Europcar, effectivement, en 2022. C'est 250 000 véhicules, c'est ça, Europcar, approximativement. C'est une fin en soi, le rachat d'Europcar, ou c'est le début de quelque chose, finalement, pour
accélérer? Europcar, ils ont des activités de courte durée qui sont importantes, mais c'est surtout une brique qu'on rajoute à notre écosystème pour s'engager dans des nouvelles formes de mobilité. Typiquement, quand on va regarder des formes d'abonnement, aujourd'hui on est plutôt bon pour engager, pour vendre des véhicules à des clients à partir de 3 ans, donc même plus sur de l'achat mais sur du leasing, de la location. Par contre, des clients qui veulent des formules d'abonnement, qui veulent s'engager sur de la courte durée, de la moyenne durée, on n'est pas forcément les mieux armés, et Europcar, via leur système informatique, via leur savoir-faire, peuvent nous aider, toujours en s'appuyant aussi sur notre réseau qui est absolument clé dans ce développement.
Vous dites, puisqu'on parle d'Europartage, vous dites aujourd'hui les voitures sont sous-utilisées.
Tout à fait.
Les chiffres le montrent, effectivement.
En moyenne, une voiture, elle va être utilisée une heure sur 24 heures. Donc, si on se projette, on voit bien qu'on a un potentiel énorme. La conduite autonome permettra de l'accélérer. On va lancer d'ailleurs des expérimentations en 2025 à Hambourg avec l'ID Buzz pour permettre justement d'avoir des premiers véhicules autonomes pour justement avoir des durées d'utilisation qui vont aller de 12 et progressivement jusqu'à 16 heures, parce qu'il faudra toujours les nettoyer
bien sûr.
Il y aura toujours de la maintenance. Ouais. Mais on est en train de développer le potentiel d'utilisation de la mobilité individuelle de manière exponentielle.
Ça, je vous dis, c'est un beau créneau, accélérer sur les services de la mobilité, valoriser les marques et rassurer le client avec une promesse garantie plus forte. Ça veut dire quoi, rassurer le client?
Le client, quand il achète aujourd'hui, je parlais de l'exemple du véhicule d'occasion, vous pouvez acheter chez des marchands, vous pouvez acheter de particulier à particulier, mais nous, quand il achète dans le réseau, il achète des véhicules qui sont garantis, expertisés, avec un véritable savoir-faire, une traçabilité, et c'est pour ça qu'on s'engage de manière forte en disant 5 ans de garantie.
Je voudrais avoir votre point de vue, il nous reste quelques minutes évidemment pour le sujet des batteries. Comment constituer un semblant d'autonomie en Europe? Alors, Volkswagen a lancé la construction
de sa première usine de cellules, on est qui sera prête en 2025, c'est ça ?
2025, ouais. Fin 2025, 2026. Ouais. Donc, on n'est pas dans du semblant. On est en train de développer une ambition forte en termes d'électrification. Si on veut atteindre 70% de nos volumes en 2030, il nous faut des usines qui produisent des batteries. Oui. Donc, on a un plan qui est assez, de 6 gigafactories en Europe.
C'est ça.
On a déjà annoncé donc Salzgitter en Allemagne.
Oui.
On en a une en Suède. On vient de confirmer l'an dernier Valence en Espagne pour nos petits véhicules. On a un projet en Europe de l'Est et puis on en aura d'autres pour accompagner cette montée en puissance. Donc c'est une transformation absolument énorme.
Il y a la question des usines de batteries, il y a aussi la question des matières premières, des terres.
Oui, donc on a tout là aussi. On
est est-ce que vous arrivez à sécuriser l'approvisionnement?
On a fait de bons progrès depuis la dernière fois qu'on
dans tous ces métaux. Il y en a plusieurs des métaux précieux.
Il y en a plusieurs, il y en a d'autres aussi. On est en train en permanence. Hein, les batteries solides vont consommer d'autres éléments, d'autres matériaux précieux, mais on a fait des avancées significatives sur sécuriser les matières premières qui nous sont nécessaires, ça c'est important. Et puis l'autre sujet qui est tout aussi important, c'est celui du recyclage,
oui.
Ce qui permettra, au-delà de l'extraction et de la filière, de s'assurer qu'on recycle énormément. Et là aussi, on a des projets.
Mais j'en reviens aux matières premières, à l'approvisionnement en matières premières. Vulgairement parlant, est-ce qu'il y en aura pour tout le monde, M. Chardon?
Non, pour tout le monde, en tout cas, on en aura. Oui. Nous, on a assuré une adéquation entre notre sourcing et nos ambitions de volume.
Est-ce que ça doit être du chacun pour soi dans cette histoire, ou est-ce qu'il faut que ça, on collabore entre constructeurs, entre industriels en Europe?
Il y a des collaborations, il y a des filières, il y a des engagements.
Est-ce qu'il y en a assez pour vous? Voilà. Est-ce que
pour nous,
espèce d'instinct grégaire, instinct de conservation.
On est dans une logique où on est un groupe avec un groupe multimarque avec donc des besoins importants. Vous l'avez rappelé, plus de 8 millions de véhicules. Ça nous permet d'avoir un avantage fort qui est celui d'avoir des économies d'échelle entre nos marques et entre guillemets chez nous. Donc c'est certainement plus simple à gérer que quand vous devez vous associer entre différents constructeurs.
Oui.
On a cette chance.
À ceux qui disent aujourd'hui que la voiture électrique finalement n'est qu'un mirage et que si ça se trouve il n'en restera rien dans quelques années, qu'est-ce que vous répondez, vous?
Le mirage, il est absolument plus là. Il est tangible. On le voit mois après mois. Il y a une demande qui s'installe. Donc il y a une conjonction de planètes entre des demandes fortes au niveau des politiques, des investissements forts qui se mettent en place chez nous, et on voit qu'on est en train de lever petit à petit tous les freins qui existaient en termes de sécurité, en termes d'autonomie, en termes de recharge, en termes d'accessibilité sont petit à petit avec les nouvelles générations de véhicules.
Nous n'avons pas en amont les ressources en énergie pour approvisionner ces voitures électriques, voyez quel est le débat aujourd'hui sur le mix énergétique de la France, sur la capacité justement à construire ce débat. S'il n'y a pas suffisamment de réacteurs, s'il n'y a pas forcément assez d'énergie disponible dans les prochaines années, il n'y a pas de voiture électrique pour
France. La bonne nouvelle, c'est qu'on est évidemment en contact rapproché avec EDF et ils sont très rassurants sur ce sujet.
Qu'est-ce qu'ils vous disent chez EDF?
Pourquoi ils nous disent déjà qu'il y a quand on se projette avec nos chiffres, là je parle de 2030, mais quand on regarde à court terme, sincèrement, on n'a pas de contraintes. Et nous, il faut qu'on se projette en disant qu'est-ce qui va se passer quand tous nos véhicules électriques vont arriver, quand le marché va basculer. Ils nous disent que premièrement, la demande va baisser en partie parce qu'il y a tous les décrets tertiaires qui sont mis en place, donc on va avoir là aussi une demande de l'électricité qui va arrêter de croître comme on l'a fait année avec année. Ça c'est année après année.
C'est compliqué déjà d'évaluer l'évolution de la consommation d'électricité dans
donc
un pays.
On peut le faire. Oui. Le deuxième point, c'est que il y a tout un plan de développement aussi d'énergie verte. Si je prends l'exemple, nous Volkswagen Group France, on a mis en place sur notre site de stockage avec Engie, on a le cinquième parc photovoltaïque de France, privé.
Ouais, ouais.
Ah, donc il y a plusieurs investissements de ce type qui vont aussi générer de l'électricité positive à partir du solaire ou d'autres. Donc ça, c'est le deuxième élément qui est important. Le troisième élément qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle des véhicules avec de bidirectionnels. Donc bonne nouvelle, on le lance en 2023 chez Volkswagen et chez Audi. Donc c'est des véhicules qui vont vous permettre, une fois que vous êtes chez vous, d'utiliser la batterie qui est stockée pour renvoyer de l'électricité dans le réseau aux périodes de pic. Parce que c'est ça la grosse contrainte d'EDF aujourd'hui, c'est de générer les pics. Donc typiquement, vous arrivez chez vous le soir, 18h, 21h, vous avez besoin de beaucoup d'électricité. Le véhicule électrique qui a encore de la disponibilité va aider à passer à ce pic. Et puis plus tard, à 2h, 3h du matin, quand en plus les tarifs sont plus avantageux, eh bien vous allez pouvoir renvoyer l'électricité, recharger le véhicule. Donc ça, c'est un point qui est très très intéressant pour EDF. Donc finalement, plus de véhicules électriques, du groupe Volkswagen bidirectionnel, c'est finalement une chance qu'on offre pour délestage.
Donc pour vous, il n'y a pas de délire dans l'électrification à tout va des gammes, des constructeurs automobiles aujourd'hui.
On est complètement rassuré par les stratèges d'EDF.
Et sur la fin du thermique en 2035 en Europe, est-ce que vous dites, comme certains le disent, beaucoup off the record dans la profession, quand est-ce qu'on arrête ce délire? Voilà, certains le disent tout bas. Est-ce que vous dites toujours 2035, oui, c'est tenable finalement? Il n'y en a qu'un dans l'industrie automobile en Europe qui le dit vraiment, c'est Carlos Tavares, finalement le patron de Stellantis, qui dit pique-pendre de cette échéance 2035.
Nous, on est sur le plan 2035, sincèrement. Quand on investit 80 milliards sur ces sujets, quand on a des plans produits avec 50 véhicules, c'est qu'on y croit, on est en train de se doter de toutes ces compétences. Je ne vais pas refaire l'histoire, on ne peut pas comparer la France et la Norvège, mais la Norvège, l'an dernier, c'était déjà 80% du marché qui était purement électrique. La Suède, ils ont passé les 50%. Les Pays-Bas sont en train de s'en rapprocher. Donc, on voit qu'on est sur une logique inéluctable. Et pour moi, ce qui est important, c'est d'interroger les clients qui, en France, ont déjà basculé. Si vous interrogez un client de véhicule électrique et vous lui demandez votre prochaine voiture, je ne parle pas de marque, mais quelle énergie vous irez, 100% vous disent on renouvellera sur l'électrique. Donc c'est un phénomène de fond qui va accélérer.
Mais si vous posez la question aux millions de Français qui n'y sont pas encore passés, qui en semblent loin, qui se disent j'en suis loin, ils vont vous dire un, le prix, deux, la disponibilité de bornes de recharge un peu partout en France, sur les rues, sur les autoroutes.
Sur le prix, c'est vrai. Donc on est en train d'y travailler. Je disais, véhicules à moins de 25 000 euros qui vont arriver en 2025. Donc on n'est pas en train de dire que ça va se faire tout de suite, mais oui. on est en train aussi, nous, de contribuer à ce développement.
C'est parce que 2035, c'est demain. Hein. Voilà.
2035, c'est demain. Ouais. Donc 2025, c'est finalement dans quelques heures par rapport à cette échelle. Donc là, on fait des efforts importants. Le deuxième point qui est important, c'est celui de la recharge, qu'il faut absolument lever. Et nous, le groupe Volkswagen, on est partie prenante en Europe d'un réseau de 20 000 superchargeurs. Et quand je regarde en France, avec notre réseau de concessionnaires, d'ici la fin de cette année, c'est 300 superchargeurs supplémentaires qu'on va mettre en place. Des superchargeurs accessibles en 24-24, 7 jours sur 7, avec des puissances qui vous permettent de recharger votre véhicule de 20% à 80% en 25 minutes. Donc finalement, le temps d'une petite pause, vous êtes rechargé. Et on le voit aussi sur les réseaux autoroutiers. On est en train, il n'y a pas une aire d'autoroute dans laquelle vous arrêtez où vous ne voyez pas des travaux d'électrification. Donc là aussi, on a, c'est vrai qu'on a peut-être pris un peu de retard, mais on voit que ça accélère. Il y a encore quelques petites contraintes de semi-conducteurs, mais c'est bien engagé.
On glisse la question à 30 secondes. La Formule 1, alors il faut vous poser la question. La Formule 1. Alors,
la Formule 1, Audi 2026. Ouais. Je vous donne rendez-vous. Donc Marc Huyanout, notre nouveau directeur Audi, donne rendez-vous à la presse le 14 février à Paris. Et en plus, nous aurons une maquette de Formule 1 de Audi. Donc vraiment, ça c'est une occasion à ne pas perdre.
Ça fera des belles images, comme on dit. Merci beaucoup, Xavier Chardon. Merci de passer nous voir pour cette grande interview ce soir sur BFM Business.
Merci, bonne
soirée. Xavier Chardon, président du directeur de Volkswagen Group France avec nous ce soir. Merci beaucoup d'être venu. Merci. 19h56, on marque une petite pause. Dans un instant, c'est François Sorel qui vous rejoint, Tech & Co. On se retrouve demain à 18h. Good evening business pour de nouvelles aventures. Bonne soirée, à demain.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.